Le premier journal du soir, celui d'Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce lundi 11 novembre commence en Bolivie.
La Bolivie sans tête, sans président. Au lendemain de la démission d'Evo Morales, nous irons à La Paz où le départ du chef de l'État n'a rien calmé, bien au contraire. Un tremblement de terre dans la région de Montélimar à la mi-journée. Grosse frayeur des habitants, des dégâts matériels. Tout le monde ne peut pas rentrer à la maison ce soir. Des habitations ont été fragilisées. Un monument aux morts pour la France en opération extérieure. Ce 11 novembre, Emmanuel Macron a rendu hommage aux soldats combattant à l'étranger au péril de leur vie. Des oligarques russes ont fait grosse donation aux conservateurs britanniques, révélation du Sunday Times à un mois des élections générales. Des révélations très embarrassantes pour Boris Johnson. Encore des nuages et des températures fraîches demain. Météo complète à la fin du journal avec Elodie Kellac.
Et ce soir à 18h15 dans Un jour dans le monde, nous sommes en Haïti. Savez-vous qu'Haïti est dans la rue depuis plus d'un mois? Savez-vous que jusque-là il y a eu 42 morts? Savez-vous que la population demande le départ du président élu avec 20% de parti participation seulement qui lui reste muet? C'est l'écrivain Lionel Trurio qui vient nous en parler. Il est en colère et il a raison. Le bruit du monde, ce sont des bombes qui datent de la guerre du Vietnam qui font encore des victimes et ça se passe au Laos. Et puis 19h20, le téléphone sonne ce soir. Je vous laisse travailler. Tiens, nous sommes avec Hubert Reeves et c'est à vous de lui poser des questions. Hubert Reeves, l'astrophysicien, vous lui demanderez peut-être des nouvelles de Mercure si vous voulez. On parlera planète surtout après des années à regarder très loin et très très en l'air. Il regarde sous nos pieds, Hubert Reeves, la biodiversité, l'avenir de la planète. Allez-y, profitez-en. 01 45 24 7000.
France Inter.
La Bolivie, donc, sans dirigeant à sa tête.
Le président Evo Morales, acculé par 3 semaines de manifestations violentes, a démissionné hier soir. Et tous ceux qui devaient lui succéder selon la Constitution ont eux aussi quitté leurs fonctions. Vacances de pouvoir et questions multiples sur l'avenir du pays. On rejoint Alice Campagnol à La Paz. D'abord, Alice, le départ d'Evo Morales a-t-il ramené le calme dans les rues du pays ce soir?
Eh bien, pas du tout. Après la liesse de la fin d'après-midi, les opposants fêtant dans la rue le départ d'Evo Morales, l'ambiance s'est rapidement dégradée. Pillages, violences, maisons incendiées. La Paz a vécu une nuit de terreur. Et ce matin, la ville s'est réveillée sous le choc. Plus rien ne bouge. Les téléphériques ne circulent plus. Aucune voiture ni aucun passant dans la rue. Et dans certains quartiers, les violences continuent. Des groupes de partisans ont du masse. Le parti de gouvernement, armé de bâtons, sème la panique dans la rue. Ces derniers sont très en colère. Depuis la démission du chef de l'État, qui les dirigeait depuis plus de 13 ans. Et Evo Morales, justement, n'est plus à La Paz. Il serait actuellement dans le Chaparré, la région où il était auparavant cultivateur de coca.
Et que peut-il se passer sur la scène politique maintenant, Alice ?
Eh bien, plus personne ne dirige le pays depuis la démission d'Evo Morales hier, ce qui a certainement favorisé le chaos de la nuit dernière. Le président a également quitté son poste, de même que la dirigeante du Sénat et le président de l'Assemblée. C'est donc l'incertitude qui règne pour le moment. Mais tous les citoyens réclament une session extraordinaire du Parlement afin qu'un ou une présidente soit nommée avant l'organisation de nouvelles élections.
Alice Campagnol à La Paz en Bolivie. Sur le plan diplomatique, Evo Morales, dernier représentant de la gauche latino-américaine, a reçu le soutien des présidents cubains et vénézuéliens ou encore de Moscou. Tous parlent d'un coup d'État. Soutien plus surprenant de Madrid. Le gouvernement espagnol critique le rôle de l'armée et de la police qui ont lâché le président dans les dernières heures. Le coup de grâce selon les observateurs. Et dernière condamnation à noter en France, des insoumis. Ils accusent l'opposition bolivienne d'actes racistes et de violents. Je cite la France Insoumise dans une logique de coup d'État. Pour le PCF, les affrontements des derniers jours relèvent d'un conflit de classe exacerbé et d'un racisme déchaîné, d'une opposition enragée. Fin de citation. Les colères du monde au Liban aussi pour le 26e jour consécutif. Manifestation contre la classe dirigeante aujourd'hui. La classe dirigeante jugée corrompue et incompétente face aux difficultés économiques du pays. Le Premier ministre Saad Hariri a démissionné le 29 octobre et depuis, la formation d'un nouveau gouvernement piétine. Le pays attend ce soir le discours du chef du Hezbollah, personnalité incontournable de la politique libanaise, mais lui aussi est contesté aujourd'hui. Et demain, l'Assemblée nationale libanaise doit voter une loi d'amnistie soupçonnée de protéger les dirigeants. Les protestataires appellent à bloquer les accès des députés au Parlement. La colère aussi à Hong Kong. Ce lundi a été parmi les journées les plus violentes depuis le début du mouvement pro-démocratie et anti-Pékin il y a 5 mois. Un manifestant a été blessé par balle, touché par un tir quasi à bout portant d'un policier, à en croire une vidéo devenue virale. Un autre a été aspergé d'un d'un liquide inflammable avant de se transformer en torche humaine. La police accuse un manifestant de cette agression.
Il est 18h05. Amélie, la terre a tremblé pendant une dizaine de secondes entre la Drôme et l'Ardèche.
Un séisme d'une intensité rare ici, une magnitude de 5,4, de quoi provoquer la panique à Montélimar ou au Teil. Là, la toiture de l'église s'est effondrée au milieu de la nef. Le Teil, où les dégâts sont les plus nombreux, le Teil où l'on retrouve Pierre-Jean Pluvit, France Bleu Drôme Ardèche, bonsoir.
Bonsoir.
Les habitants ont retrouvé leurs esprits ce soir, mais pas forcément leur maison, hein, Pierre-Jean.
Exactement, 250 personnes ne pourront pas rentrer dormir chez elles ce soir. Alors, trois gymnases ont été ouverts, la ville a ouvert trois gymnases pour accueillir une centaine de personnes. Les autres seront relogés dans la famille ou chez des amis. Les dégâts sont tout à fait impressionnants. Dans les plus vieux quartiers du Teil, là où il y a beaucoup de maisons très vétustes en pierre, c'est par exemple le cas du quartier du Frayol ou bien le centre-ville. Là, par exemple, la maison de Joël a été très très abîmée. Joël qui se mettait à table hein, à midi comme beaucoup, puis qui a entendu une sorte d'explosion. Les murs, les meubles de son salon sont tombés, les murs se sont fissurés. Elle s'est précipitée dehors et là, le mur de la maison d'en face s'est effondré. Heureusement, il n'y a aucun blessé lors de ce tremblement de terre, que ce soit dans la Drôme ou dans l'Ardèche. Mais ce soir, Joël est obligé de dormir dans ce gymnase Pierre de Coubertin qui a été ouvert en début d'après-midi. La préfecture fait savoir que des gendarmes mobiles vont investir les quartiers les plus touchés et le centre-ville du Teil, justement pour éviter les pillages.
Merci beaucoup Pierre-Jean Pluvit, France Bleu, Drôme Ardèche. Alors des dégâts matériels, on l'entendait, la secousse a été ressentie jusqu'à Saint-Étienne, Lyon et même dans le sud de la France. Assez rare mais pas anormal, nous dit le sismologue Yann Klinger de l'Institut de physique du Globe de Paris.
Le séisme semble être assez superficiel, donc proche de la surface. Et comme il a une magnitude assez élevée, autour de 5, effectivement, c'est quand même une magnitude assez conséquente. Et si vous êtes juste au-dessus, vous êtes bien secoué. Disons que les séismes de magnitude 5 en France, il n'y en a pas très souvent, effectivement, parce que nous ne sommes pas dans un pays qui se déforme beaucoup. Mais il y a des structures géologiques connues, notamment la plus importante, c'est pas forcément celle-là qui a rompu, mais c'est la faille des Cévennes qui marque la bordure est du massif des Cévennes, et qui est une faille géologique qui génère de la microsismicité de façon un peu régulière.
Faut-il s'attendre à des répliques ?
Pour chaque séisme, c'est la séquence normale que d'avoir des répliques. Alors les séquences classiques, c'est plutôt d'avoir des répliques de magnitude inférieure. On peut pas exclure cependant qu'on ait des séismes plus forts, ça s'est déjà vu, mais là on n'en sait rien.
Le sismologue Yann Klinger, il répondait à Sophie Bécherel. Un lundi 11 novembre de commémoration aussi ce soir, Emmanuel Macron a rendu hommage à ceux morts pour la France, aux Invalides d'abord, comme c'est la tradition ce jour anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Hommage aussi aux militaires tués en OPEX, les opérations extérieures. Ils sont 549 à avoir péri en mission depuis 1963. Bonsoir Nathalie Hernandez.
Bonsoir.
Le chef de l'État a inauguré le premier monument qui leur est dédié dans le 15e arrondissement de Paris, dans le parc André Citroën, où l'on vous retrouve. Premier monument pour les soldats morts à l'étranger depuis la guerre d'Algérie.
C'est un président au visage grave qui a inauguré ce mémorial. Emmanuel Macron est aussi chef des armées. Il porte donc la responsabilité de l'engagement militaire de la France. Le chef de l'État a d'abord déposé une gerbe devant la sculpture réalisée par Stéphane Vigny. 6 soldats de bronze, 5 hommes et une femme portant un cercueil invisible. Pour redonner vie à ces combattants, des lycéens de Castres et d'Agen ont lu leur témoignage.
Mali, 2016.
Je vis partir mon frère. C'est un soldat que la République fit revenir des sables du désert. Un soldat de 28 ans, que le ciel d'encre et de scintillement s'ouvrant au-dessus de lui, dans l'immensité solitaire du Sahara, avait émerveillé la veille de sa mort.
549 noms sont désormais gravés sur le mur entourant cette sculpture. Tous ces soldats ont donné leur vie pour défendre la République, a rappelé ensuite Emmanuel Macron.
La perte d'un être cher est irréparable, mais celui qui meurt pour la France ne meurt pas en vain. Celui qui tombe au champ d'honneur ne tombe jamais pour rien. Sa vie donnée, ce sont des vies protégées, des vies sauvées. sa vie donnée ne sera pas oubliée. Jamais.
Le chef de l'État a également remercié les militaires actuellement déployés. Ils sont notre sentinelle et notre bouclier, a conclu Emmanuel Macron.
Nathalie Hernandez avec Marcos Darras au moyen technique. Merci à vous deux. Ce soir, Emmanuel Macron réitère son forum de Paris sur la paix qu'il avait initié l'an dernier pour le centenaire de l'armistice. Il reçoit une trentaine de chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée quelques jours après avoir évoqué la mort cérébrale de l'OTAN et les difficiles relations internationales avec les États-Unis ou encore avec la Turquie. Ankara et son bras de fer sur le sujet des djihadistes. Les Turcs annoncent l'expulsion prochaine de 11 djihadistes français, en majorité des femmes, précisent les autorités. Alors, arrivés en France, ces combattants terroristes seront interpellés et présentés à un juge. Où se trouve aujourd'hui Tony, un adolescent de 17 ans, habitant de Seine-Saint-Denis? Tony disparu depuis mercredi dernier, une bagarre violente au bord du canal de l'Ourcq à Noisy-le-Sec. Une vidéo du jeune homme frappé, le visage en sang, a été diffusée sur le réseau Snapchat. Deux garçons du même âge, 17 ans, ont été présentés à un juge d'instruction aujourd'hui. Emmanuel Leclerc, vous nous avez rejoint. De quoi s'agit-il? Un règlement de compte entre quartiers rivaux?
C'est ce soir la principale hypothèse des enquêteurs de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Un règlement de compte ou une dette entre un groupe de Sevran et de Noisy-le-Sec. La priorité depuis 4 jours, c'est surtout de savoir si Tony, le jeune homme de 17 ans, est toujours en vie et de pouvoir le retrouver s'il a été séquestré avec chaque jour passant. Un espoir qui s'amenuise selon une source proche de l'affaire. Les recherches pour retrouver le corps dans le canal de l'Ourcq où il a été aperçu pour la dernière fois n'ont rien donné. Ce matin, le parquet de Bobigny a effectivement déféré 2 suspects devant un juge d'instruction, dont un surtout âgé de 17 ans soupçonné de tentative d'homicide en bande organisée, d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire d'otages. On ne sait pas encore si c'est lui qui a organisé le simulacre d'exécution au bord du canal de l'Ourcq dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Une arme à la main filmée, une vidéo à destination a priori d'un trafiquant de drogue de Sevran. La procureure de Bobigny a demandé un placement en détention provisoire et un contrôle judiciaire pour le deuxième suspect. Interpellé vendredi, ce sont les juges d'instruction et le juge des libertés et de la détention qui doivent en décider dans les minutes qui viennent.
Emmanuel Leclerc, service police-justice sur France Inter.
La Russie s'est-elle immiscée dans la politique britannique? Le Sunday Times sort une enquête explosive à un mois des élections générales.
L'hebdomadaire a cherché à savoir pourquoi le gouvernement de Boris Johnson avait bloqué la publication d'un rapport parlementaire sur les ingérences russes dans la politique britannique la semaine dernière. Le journal affirme que 9 personnalités russes, des hommes d'affaires, ont fait des donations au parti conservateur du Premier ministre. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Amélie.
On parle de l'équivalent de plusieurs millions d'euros donnés autorisent.
Oui, le Sunday Times donne des noms et aligne des chiffres. Plus +1 200 000 livres versés ces 7 dernières années par un certain Alexandre Temerko, un proche du Kremlin, qui se dit l'ami de Boris Johnson. 450 000 livres déboursés rien qu'en 2018 par l'épouse d'un ancien allié de Vladimir Poutine, Lubov Tchernoukine, en 2014. La même a payé 160 000 livres pour une partie de tennis avec Boris Johnson et David Cameron. Ça fait cher l'échange de balles. Au total, selon les calculs du site web Open Democracy, les Tories auraient reçu plus de 3,5 millions de livres d'origine russe depuis 2010. Donations pas forcément illégales, elles ne sont pas plafonnées comme en France, mais leur montant et leur fréquence intriguent dans un pays très marqué, vous le savez, par l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal il y a 2 ans. Un pays où le gouvernement est accusé de sous-estimer l'ingérence du Kremlin et même de bloquer sciemment le fameux rapport. Vous l'avez dit, on ne cache rien du tout, rétorque Downing Street, qui promet une publication en temps utile, soit après l'élection générale cruciale du 12 décembre prochain.
Merci Louise Baudet. La Birmanie traînée en justice pour le massacre des Rohingyas, une action judiciaire lancée par la Gambie. La Gambie mandatée par tous les États membres de l'Organisation de coopération islamique. Environ 740 000 musulmans de cette minorité ont fui la Birmanie depuis 2 ans, persécutés par l'armée et par les bouddhistes. Et puis enfin, une avenue Jacques Chirac, l'ancien président mort en septembre, laisse son nom à une rue aux Émirats Arabes Unis, l'avenue qui mène au Louvre à Abu Dhabi. C'est un hommage au rôle joué par Jacques Chirac dans les relations entre les Émirats et la France. Par ailleurs, le musée célèbre aujourd'hui son 2e anniversaire.
Eh bien, c'est dit, Amélie Perrier. Merci beaucoup.